Emmène aujourd'hui sur la colline de Lorette, l'une des belles collines de l'Artois entre Arras et Béthune. On part de la commune de Souchez et en se dirigeant vers la nécropole Notre-Dame de Lorette, on tombe nez à nez avec une étrange forme, pas un cercle mais une ellipse. C'est l'anneau de la mémoire, son nom officiel, le mémorial de Notre-Dame de Lorette.
Bonjour, vous habitez dans le coin en fait ?
On est randonneurs, on vient de Vimy.
Vous venez régulièrement ici, vous promenez ?
Oui, régulièrement, oui.
Oui. C'est un chouette coin ici ?
Bah, bien sûr.
Alors qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là, de ce bâtiment, ce mémorial à Lorette ?
Moi je suis très déçu parce que l'architecte avait dit que ça ne dépasserait pas la hauteur des croix du cimetière. Or, on voit d'ici que ça dépasse largement. Et que nous, on est attirés par le paysage de Mont-Saint-Éloi et tout ça, mais on ne voit plus rien.
Oui, ça coupe un petit peu la vue de ce côté-là, quoi. Mais enfin, c'est tout de même une belle réalisation. C'est une ellipse.
L'idée qu'il y a un lieu de mémoire comme ça pour les combattants de 14-18 ici sur la colline de Lorette, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah oui, ça canardait tout de même par ici en 14-18. Hein, c'est un haut lieu. Hein. Ça, Verdun, tout ça, ça c'est marqué dans la mémoire. Et puis, le devoir de mémoire, il faut qu'il se transmette à la jeunesse, comme on dit.
Tous les morts sont ensemble, français, allemand, anglais, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est normal, hein. De toute façon, tout le monde était victime. Nous, on vient souvent parce que moi, mon grand-père a fait l'attaque de Vimy en partant d'ici. Et on retrouvait, et c'est à peu près à l'endroit, ils passaient de la tranchée où ils ont attaqué Vimy, c'était à peu près à l'endroit du cercle.
Vous êtes venu en vélo ici, vous vous promenez régulièrement sur ces collines ?
On se promène régulièrement, mais on vient surtout voir un peu l'avancement des travaux, parce que c'est quelque chose qui nous touche quand même à cœur, hein, de voir qu'il y a des heureuses initiatives pour perpétrer le souvenir de nos glorieux anciens. Donc on vient régulièrement voir l'avancement des travaux.
Alors qu'est-ce que vous en pensez de cet anneau ?
C'est une belle réalisation, hein. On attend de pouvoir la visiter officiellement. Mais pour nous, c'est une belle réalisation. Hein. On en parlait tout à l'heure avec les copains. Il faut à tout prix qu'il y ait des témoignages et des choses qui restent pour les générations futures. Parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à vouloir tout jeter. Et là, c'est vachement important pour nous.
Alors pourquoi il faut se souvenir alors ?
Pour plus qu'on retrouve à nouveau des guerres. On a des guerres sur d'autres formes. Hein, mais là, c'est vraiment quelque chose qui a compté pour toutes les nations qui ont dû malheureusement y participer. Hein. Quand on voit le nombre de morts... Nombre de personnes inscrites sur l'anneau, ça donne à réfléchir quand même.
Là, tous les noms sont mélangés par nationalité. Enfin, c'est-à-dire que anglais, français, allemand sont tous mélangés. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire qu'on retrouve tous le même royaume des cieux, hein, à quelque appartenance qu'on soit. Mais se sont tous battus pour un idéal, peut-être. Hein, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. On a rencontré des gens qui étaient contre ce genre de construction en souvenir des anciens. Nous, on essaye de leur expliquer aux anciens. S'il faut l'expliquer aux anciens, il faut l'expliquer aux jeunes. Il y a du boulot. Hein.
Pourquoi ils trouvent que ça coûte trop cher, c'est ça ?
Bah oui, bon, il y a des gens, ils voudraient que l'argent soit dépensé autrement. Mais c'est vachement important. Hein. On dépense assez d'argent sur d'autres choses... plus futile encore, mais là c'est vraiment le respect de la mémoire qu'il faut marquer, parce que depuis plusieurs dizaines d'années on n'a fait aucun édifice de ce genre en commémoration justement des grands moments de l'histoire.
100e anniversaire, ça se fait quand même.
C'est important que des responsables politiques aient eu l'idée de faire quelque chose déjà.
Après ces témoignages de promeneurs croisés à deux pas de l'édifice, on écoute l'architecte et concepteur de l'anneau de Lorette, Philippe Prost.
Eh bien, on est sur une colline où la nature a repris ses droits après avoir été détruite par la guerre. Hein. Quand on regarde les photos anciennes, on voit que cette colline se présente comme un paysage de Mars, où il n'y a plus une herbe, plus rien, plus un mur, absolument plus rien. Et donc la nature a repris ses droits et je voulais que ce monument, il s'inscrive dans cette nature apaisée, et qu'il produise aussi un effet de paix, de sérénité, de fraternité. Donc la fraternité, c'est déjà, d'une certaine manière, elle est dans l'ADN du monument, puisqu'il s'agit de mettre par ordre alphabétique les 600 000 noms des combattants, hein, sans distinction de pays, de race, de religion, de grade, d'année où les soldats sont tombés au champ de bataille. Donc c'est vraiment, on démarre à la lettre A et puis on finit à la fin de l'alphabet. Et on a là, pêle-mêlé, des gens qui sont venus se battre sur le territoire pendant des 5 continents de la planète, donc c'est très impressionnant. La paix retrouvée à travers cette fraternité, ces noms qui sont gravés sur des panneaux qui sont comme les pages d'un livre, ou les plis de la mémoire d'une certaine manière, et puis aussi cette idée d'une fragilité de la paix, parce qu'on sait tous que la paix, on l'a gagnée, mais elle peut s'évanouir, et cette fragilité, ben, je voulais qu'on la ressente physiquement, qu'on la ressente émotionnellement. Et là, c'est aussi la nature, la déclivité du terrain qui m'a permis d'évoquer cela, parce qu'à un moment donné, on va marcher dans cet anneau, et on va marcher au-dessus du vide, sur une passerelle, depuis laquelle on va découvrir Vimy, le Mémorial canadien, depuis laquelle on va découvrir Ablain-Saint-Nazaire, où on va découvrir Saint-Éloi en ruine. Donc la fragilité de la paix, et puis aussi la puissance du monument, son extraordinaire présence dans le site, et en même temps sa forme de grande légèreté, car quand on passe sous l'anneau, on a au-dessus de sa tête plusieurs centaines de tonnes de béton fibré à ultra haute performance, et je pense qu'on a le sentiment d'être sous quelque chose de très léger, de très aérien. Et donc là, c'est une question de dessin, de design, c'est-à-dire dessiner les pièces de l'ouvrage pour qu'elles soient élégantes, pour qu'elles donnent une impression de régularité, de sérénité dans le paysage.
Alors fragilité, oui, c'est vrai, parce que l'anneau est un petit peu en équilibre quasiment sur le plateau ici, hein, de la colline. Et puis cette fraternité, donc symbolisée par le cercle, comme les cercles d'enfants, vous disiez.
Oui, comme les rondes qu'on forme quand on est dans la cour de récréation et qu'il n'y a pas de bagarre, et où les gens se tiennent par la main et où ils forment une ronde. C'est vrai que c'est un moment où, ben voilà, on se tient tous par la main, on est tous... on partage quelque chose de très fort, d'intense, et c'est ça que je voulais absolument faire de ce monument. Alors le monument, il a été construit pour la région du Nord-Pas-de-Calais. Il est sur un terrain qui a été donné par le ministère de la Défense français à la région du Nord-Pas-de-Calais pour le construire, à côté de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, qui est la plus grande nécropole nationale de la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'est la région qui entretiendra ensuite ce monument, puisqu'il lui appartient.
Un mot sur la technique, hein, parce que ça a l'air simple, mais c'est aussi une prouesse technique finalement ce monument.
Oui, alors c'est une prouesse technique, mais ce que je voulais, c'est que ça ne se sente pas, que ça ne se voit pas. Je vous en ai un peu parlé, mais parce qu'il me semblait important de vous faire mesurer à quel point, pour atteindre cette simplicité, ce côté épuré, il a fallu que les ingénieurs, que mon agence, que nous travaillons tous avec les entreprises, pour arriver à épurer, pour arriver à faire un dessin extrêmement calme, serein. Et ces pièces, ces voussoirs, comme on dit dans le langage des ouvrages d'art, ces voussoirs qui pèsent plus de 10 tonnes chacun, eh bien, ils sont assemblés millimétriquement, comme les pièces d'une horloge. Et finalement, quand on les voit, là où nous sommes, on n'a pas le sentiment de quelque chose de lourd, on a presque le sentiment à l'inverse de quelque chose de léger. On a le sentiment de lignes qui filent, qui sont des belles horizontales, alors qu'on a des panneaux qui tournent et qui ne font que 2 cm d'épaisseur en tête au-dessus des panneaux de noms. Donc tout ça, c'est un travail pour arriver à garantir cette espèce d'équilibre, de sérénité dans laquelle je voulais que les visiteurs puissent se trouver placés.
Ici, la citadelle, le nord vous va bien Philippe Prost.
Oui, alors c'est un peu, finalement je m'aperçois que je dois beaucoup, on doit toujours beaucoup de choses aux autres, et je dois beaucoup à mon intérêt pour l'architecture militaire. C'est là que j'ai commencé, en travaillant sur la citadelle de Belle-Île qui a été construite par Vauban. C'est aussi Vauban qui m'a amené à venir travailler dans le Nord-Pas-de-Calais, que ce soit sur Arras ou sur la citadelle de Lille. Et ce rapport au paysage, cette technicité qui est qui est nécessaire mais qui disparaît, on la trouve aussi dans les ouvrages que construit Vauban. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la pureté, on se rend compte de la pureté géométrique, mais on ne se rend pas compte de ce que cela sous-entend de travail, d'effort, de conception pour en arriver là.
Philippe Rost, architecte et concepteur de l'anneau de Lorette. Autre témoignage recueilli lors de cette visite de presse de l'anneau de Lorette, c'est celui de Yves Lemaner, directeur de la mission Histoire, Mémoire, Commémoration au Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. C'est un peu Monsieur Centenaire en région.
L'idée de départ, c'est de célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, qui a été une tragédie épouvantable pour tous les peuples qui ont été engagés, de façon pérenne. Laisser une trace durable de ces centaines de milliers d'hommes qui sont venus mourir ici, dont toute l'intelligence, tous les talents manuels et intellectuels ont été perdus pour l'humanité. Quelque part, 100 ans après, on prend conscience de la tragédie, on prend conscience de l'inutilité de cette Première Guerre mondiale.
Question un petit peu choc, mais ça sert à quoi de commémorer ?
Commémorer, c'est nécessaire parce que ça établit les relations entre les différentes générations qui composent toute nation. Et en même temps, c'est un rappel aux gens d'aujourd'hui qui ont la chance d'être nés dans un monde pacifique. L'Europe est un îlot de paix depuis des décennies. De leur rappeler que cette paix n'est pas quelque chose de définitivement acquis et qu'il faut être vigilant, ne pas laisser les discours de haine, quels qu'ils soient, s'installer, et que le meilleur moyen de prendre conscience de cette nécessité de maintenir la paix, c'est de voir la masse des morts qui se trouve ici.
Ici, il y a une idée nouvelle de commémorer tous ensemble, pas de distinction de nationalité.
Oui, ça c'est fondamental. C'est que jusqu'alors, toutes les commémorations des guerres ont été faites selon le critère de la nation. Ce sont les nations qui se sont affrontées. Et là, pour la première fois, on mêle côte à côte des gens qui étaient ennemis pendant ce conflit, qui ont subi les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, qui ont connu la même mort absurde. On les met côte à côte. Pour dire que ces hommes se battaient chacun dans leur camp pour des causes qu'ils croyaient justes. Ils ont subi les mêmes épreuves et aujourd'hui, on pense à eux collectivement sans établir de distinction. Cette première guerre, elle est mondiale et ce n'est pas un adjectif au hasard. Ils sont venus combattre sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 14 et 18 des gens qui venaient du Canada, qui venaient des colonies françaises d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, qui venaient d'Inde, qui venaient d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Europe, bien sûr. Donc tous les continents ont été impliqués dans ce conflit. Tous ces hommes savaient lire et écrire et ils ont péri dans des conditions souvent atroces sur les champs de bataille de Flandre et d'Artois.
Quand on sort de ce genre de lieu de mémoire, alors on se rend compte de l'atrocité, hein, parce que là c'est vraiment impressionnant le nombre de noms inscrits, mais souvent dans ce genre de lieu de mémoire, on invite, c'est pourquoi finalement il y a eu la guerre, les causes profondes en fait de tout ça.
Alors, le problème des combattants, c'est qu'eux n'ont pas été associés aux causes de la guerre. Cette guerre, elle a été déclarée par les éléments puissants de la société, par les dirigeants politiques, par les dirigeants militaires. Et les simples combattants, c'était des citoyens comme tout le monde, c'était des volontaires dans le cas des Britanniques. Ils sont venus se battre pour défendre une cause qu'ils jugeaient juste. Et donc, quand on se souvient 100 ans après de la mort de ces gens, il y a un réflexe de respect, il y a un réflexe aussi d'éviter que ça ne se reproduise, que nos propres enfants n'aient à subir ce que ces hommes ont connu.
Une vision vraiment cynique de la chose peut nous faire dire c'est pour faire venir des touristes. Comment vous voyez ça ?
Ce n'est pas le cas du tout. Pourquoi ? Parce que l'échelle de la souffrance qui est cachée derrière ces noms, c'est quelque chose d'infini. Regardez le choc qu'a constitué pour la société française l'annonce de la mort il y a quelques années en Afghanistan de 10 soldats professionnels. Regardez le choc qu'a constitué l'annonce de la mort d'Hervé Gourdel en Algérie pour la collectivité nationale. Un homme, 10 hommes, une infinie souffrance. Là, c'est 600 000 hommes. Vous voyez, l'échelle des douleurs dans les familles, dans les villages, dans les communautés, dans les collectivités. C'est quelque chose qui est fondamental et ça n'a rien à voir avec une démarche mercantile. Ça n'a rien à voir avec une société où les fondements essentiels sont souvent oubliés.
On est toujours en compagnie d'Yves Lemaner au micro, conjoint de Radio PFM et de Radio Scarpe Sensé. Yves Lemaner nous parle du travail de récolte des presque 600 000 noms de l'anneau de Lorette.
Ça a été un travail considérable. Il a fallu d'abord s'appuyer sur celui qu'avaient fait les Britanniques depuis 90 ans. Ça a été un choc terrible pour le monde britannique. Nos amis allemands ont dû eux aussi se replonger dans leurs archives qui étaient écrites en gothique pour retranscrire les noms. Et nous, nous avons consulté une à une les 1 400 000 fiches de mort pour la France pour identifier les 106 000 Français qui ont péri sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre le mois d'août 1914 et le mois de mars 1916, puisqu'ensuite l'armée française est partie qui combattent à Verdun.
Donc tout le monde y est alors ?
Du côté français, vraisemblablement, pratiquement tout le monde y est. Du côté britannique, pratiquement tout le monde y est. Il y a peut-être quelques manques du côté allemand et nos amis allemands feront les recherches dans les années à venir pour pouvoir éventuellement compléter. Alors il y a 500 plaques d'acier. Il y en a 499 qui sont gravées et il y en a une qui est restée vierge. Au cas où nous retrouverions dans les archives ou par l'apport des familles des noms oubliés. Ce n'est pas impossible, notamment du côté allemand, puisqu'une partie de la mémoire de la Première Guerre mondiale a été détruite par les bombardements stratégiques alliés de 1944-45. Il n'est pas impossible qu'on retrouve des noms, et nous avons donc prévu de graver ces noms complémentaires en 2018. Alors ce sont presque tous des soldats, mais il y a également des infirmières, notamment des infirmières de l'armée britannique, et il y a également ce qu'on appelait les travailleurs auxiliaires, en particulier les Chinois, que les Britanniques avaient fait venir pour assister les troupes anglaises, pour transporter les munitions, pour regrouper les corps sur le champ de bataille. Il y a plusieurs noms de Chinois qui sont gravés sur ce monument.
Qui a financé ce monument et à quelle hauteur ?
Alors ce monument a coûté 8 millions d'euros. Par comparaison, c'est le coût du transfert d'un joueur de classe moyenne dans un championnat de football européen. J'insiste là-dessus parce que c'est une notion d'échelle de valeur. Et le financement a été apporté par l'État, le ministère de la Défense, par la région Nord-Pas-de-Calais, par le Conseil général du Nord et par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.
Qui surveillera ce site aussi, parce qu'on connaît les dégradations qu'il y a pu avoir justement à Notre-Dame-de-Lorette. Il est prévu un programme de surveillance aussi de ce site ?
Vous savez qu'après les profanations qui ont eu lieu sur la nécropole nationale il y a quelques années, des caméras thermiques ont été installées, elles couvrent le mémorial, et des systèmes anti-arrachement ont été pris. Mais voyez, la profanation, la dégradation, c'est des actes de bêtise profonde. Et je crois que pour lutter contre ce phénomène, il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'éducation. Faire prendre conscience aux gens de ce qu'est la réalité de la guerre. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas une fiction de cinéma, c'est la destruction de l'être humain. Et je pense qu'en faisant appel à la raison des gens, quand on entre dans ce lieu, vous avez remarqué, inévitablement, il y a le silence qui s'établit. On a du mal à parler fort parce qu'on est oppressé par cette liste de noms et que l'on prend conscience d'un seul coup de ce qu'a été cette tragédie.
Yves Le Maner, directeur de la mission Histoire, Mémoire, Commémoration en région. Vous le retrouverez bientôt sur Radio PFM puisque ce samedi 1er novembre dans l'émission Parlons Franf, le magazine des radios associatives du Nord-Pas-de-Calais. On vous proposera un entretien avec Monsieur Le Maner. Il sera notamment question des commémorations mais aussi des possibles dérives mercantiles, des oubliés de l'histoire. Donc ça sera diffusé ce samedi à 11h30 sur PFM 99.9. Et puis l'inauguration officielle de l'anneau de Lorette, ce sera le 11 novembre prochain en présence de François Hollande, peut-être aussi en présence de la reine d'Angleterre ou de David Cameron, et peut-être aussi de Angela Merkel, on verra bien. L'ouverture au grand public, ça sera dès le lendemain, donc dès le 12 novembre. Alors même si vous n'êtes pas fanat de cimetière de commémoration, c'est un bâtiment qui est d'abord très beau, dans un paysage magnifique, et puis comme ça a été dit dans le sujet, c'est un lieu qui provoque chez le visiteur un sentiment, une émotion, une réflexion aussi sur la guerre, la paix, le respect de la mémoire et l'avenir.